Bonjour à tous, ici Laurie Michaud et bienvenue à Management 101, balado propulsé par Koboom, cabinet conseil en management. Chaque semaine, je m'entretiens avec ma collègue Catherine Dubé, copropriétaire chez Koboom, pour adresser un des 16 domaines du modèle intégrateur du management développé par notre cabinet. Notre but, vous donner des outils pour mieux gérer. La structure, c'est la base de l'entreprise. Il s'agit de la façon dont elle est gérée et constituée, par exemple de manière très hiérarchique ou encore de manière cellulaire, avec un maximum de pouvoir redistribué aux collaborateurs. En réalité, il existe autant de subtilités dans les modèles organisationnels qu'il y a d'entreprises. Aujourd'hui dans l'épisode, nous parlerons des différentes structures présentes en entreprise ainsi que ce qui arrive à la structure dans une situation d'entreprise responsabilisée. J'appelle Catherine à l'instant. Bonjour Catherine!
Allô Laurie!
Ça va bien?
Ça va bien, toi?
Oui, oui, très bien. Il reste seulement deux sujets du domaine intégrateur, puis ensuite il va nous rester un dernier épisode de la culture, qu'on approche vraiment de la fin. Et aujourd'hui, on va parler de structure. Je sais que c'est un sujet qu'on affectionne particulièrement. J'ai quand même hâte de faire cet épisode-là avec toi. Puis je vais commencer en faisant une genre de mise au point slash question que je poserais plus à la fin normalement, mais là, j'avais envie de t'en poser au début. Donc, ceux qui commencent à nous connaître savent sans doute que nous sommes une entreprise responsabilisée qui se distingue d'ailleurs par sa structure hiérarchique aplanie. Donc, avant de commencer, pour que tout le monde sache où se situer, puis aussi comme quoi prendre, puis quoi laisser dans l'épisode, j'ai envie de te poser la question fatidique. Comment savoir si c'est pour nous une structure d'entreprise responsabilisée? Est-ce que c'est pour tout le monde?
C'est vraiment pas pour tout le monde. D'ailleurs, j'en discutais un peu plus tôt aujourd'hui. Il y a des structures qui sont faites pour certains types de personnalités, puis d'autres. Tu sais, il y en a qui disent « OK, c'est tout le monde est fait pour tout le monde ». Non, OK. Moi, je crois vraiment qu'il y a des fits entreprise-employée, puis que la beauté de la chose avec les entreprises responsabilisées libérées qui sont en train de se mettre en branle présentement, c'est plus d'offrir une diversité de structures plutôt que d'être dans l'uniformité. Donc ça, pour moi, c'est vraiment important de comprendre. Donc, est-ce que c'est fait pour tout le monde? Non. Puis, comme entrepreneur, il faut se poser la question, c'est quoi mon désir de contrôle sur mon entreprise? Mm-hmm. Puis de là, on vient voir est-ce que c'est fait pour moi ou pas, parce que ça demande d'avoir beaucoup de confiance en les gens, ça demande de croire en le potentiel des gens, ça le demande de, d'être transparent. Puis la transparence, bien, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Puis même chose pour les employés de part et d'autre. Tu sais, si on va de chaque côté de la médaille, tu sais, ça demande que moi je fasse confiance, mais que la personne se fasse confiance aussi, là.
Oui.
Que tout ce que ça demande, ça le demande des deux côtés. C'est vraiment une relation qui est bidirectionnelle, l'entreprise responsabilisée, qui ne l'est pas nécessairement dans une entreprise plus hiérarchique traditionnelle.
C'est pour ça que je voulais nuancer, en fait, parce que, tu sais, des fois, on va dire, on va s'emporter, puis on va dire que les structures hiérarchiques sont comme plus adaptées au monde d'aujourd'hui, mais c'est pas tout le temps vrai, en fait. Tu sais, il faut vraiment voir qu'est-ce qui est le plus adapté pour nous en tant qu'individus et en tant qu'entreprise.
Des fois, je pense que c'est plus simple mettre une structure hiérarchique pour résoudre des problèmes court terme. Tu sais, des fois, là, on se dit, OK, pour résoudre telle problématique, on va mettre une personne responsable qui va être responsable de tout le monde. Ça va être le point de contact, mais c'est peut-être simple comme solution, mais ça peut être complexe dans le day-to-day, cette solution-là.
Oui, c'est souvent plus facile parce que tu vas juste avoir un boss qui te dit quoi faire. Mais après, c'est peut-être pas toujours le plus optimal pour l'entreprise.
Non, ça peut nuire à l'agilité, puis il y a plein de choses dans lesquelles ça peut nuire. Mmh. Mais tu sais, après, il y a pas de bonne ou mauvaise recette. Moi, je pense qu'il y a une mauvaise recette pour un style de personne.
L'épisode d'aujourd'hui va être séparé en deux segments. Un segment plus général qui va expliquer les différentes structures et un segment sur l'entreprise responsabilisée. Segment 1. Les différentes structures présentes en entreprise. Pour commencer, un peu comme avec le pouvoir, puis tu sais, le sujet de structure et de pouvoir, c'est très interrelié, là, vraiment, un va pas sans l'autre. Il existe trois types de structures, les structures formelles, informelles et de création de valeur. Donc normalement, chaque entreprise fonctionne plus ou moins avec les trois. Si on commence par la structure hiérarchique formelle, c'est le domaine plus traditionnel du pouvoir et du contrôle.
Alors, la première structure, la structure la plus connue, la structure formelle. Pourquoi? Parce que c'est celle qu'on dessine, c'est la fameuse structure hiérarchique, le fameux organigramme. C'est ça la structure formelle, c'est les liens qu'on a vraiment définis, là. Tu sais, les fameuses lignes là, dans notre organigramme qui relient les gens entre eux. Ça nous dit qui a le pouvoir sur qui, ça nous dit c'est quoi nos limites. Nécessairement, tu sais, mes limites sont entre la personne qui est exemple sous moi, j'aime pas ça dire ça, mais c'est pas grave. Dans une hiérarchie, on le voit de même, mais qui relève de moi et la personne de qui je, moi, relève. Donc, ça nous dit les paramètres. La structure formelle néglige toutes les deux autres structures, puis c'est ça la problématique avec les organigrammes actuels. Pour moi, c'est pas de pas être en mode hiérarchique. T'sais, on pourrait très bien, justement, on a fait un projet là où on a gardé la structure hiérarchique, mais que l'organigramme, il représente réellement la structure formelle, informelle et créatrice de valeur. Donc, le problème en ce moment, c'est qu'on fait juste mettre des cases, puis des noms, puis des gens, puis en réalité, ne devrait même pas avoir de nom.
Non, c'est ça. La structure formelle ne doit pas se fermer les yeux sur, par exemple, les liens qui sont informels, parce que sinon, ça représente tellement pas la réalité.
Donc, tout le naturel. Il y a comme toute une chimie entre les gens, puis on pourrait jumper justement sur la structure formelle. Ça va nous mener à la structure... Bien, la structure informelle, en fait. La structure informelle, c'est, exemple, chez nous, entre Jean-Pierre et moi, on a un lien qui est père-fille.
Oui.
Laurie, entre toi puis Noémie, il y a un lien d'amitié qui était là. Oui. Préalablement à ce que tu viennes. Tu sais, tu t'es fait d'autres amis aussi chez Kobo, mais tu sais, préalablement, vous aviez même déjà une amitié qui existait au préalable. Noémie est liée par moi parce que c'est comme une des meilleures amies de ma petite sœur depuis qu'elle est comme en secondaire 1. Donc, je la connais depuis comme 10 ans. Donc, il y a tout des liens comme ça qui sont toute la structure informelle qui fait en sorte qu'il y a une personne. On peut pas se dire « Ah, ma structure formelle va fonctionner sachant tous les liens interpersonnel qu'entre les gens, que ce soit des liens de famille, des liens de couple, des liens de ex-conjoint. Ça, c'est pire.
Mais c'est ça. D'ailleurs, un bon outil pour cartographier les différents liens informels, c'est le génogramme. Ça, c'est un outil qui vient plus du domaine d'intervention en entreprise familiale, parce que c'est souvent là qu'il va y avoir comme plein de liens entre les différentes personnes, mais ça peut s'appliquer aussi sur... Tu sais, on peut le rendre un peu plus léger, puis ça peut s'appliquer pour toutes les entreprises.
Parce que le génogramme va au-delà des liens familiaux. T'sais. On voit vraiment les liens d'amitié, les liens de couple, les liens leader positif, leader négatif.
C'est ça, c'est un important. Ouais. Donc, la base du dessin, c'est plus facile de partir de la structure formelle, la structure hiérarchique. Comme ça, on part de ce schéma-là. Puis après, on peut venir ajouter différents symboles, différentes lignes. Comme ça, après ça, on a tout qui est regroupé dans un même dessin. Le leader positif et le leader négatif que tu disais, c'est un des points clés vraiment à identifier dès le début. Puis c'est important de venir faire le lien avec la structure formelle. Tu sais, de voir mes leaders positifs, c'est quoi leur rôle hiérarchique. Puis des fois, tu peux voir comme des chemins
secrets. Ouais.
Tu peux voir des tendances, tu peux voir exactement pourquoi ça marche ou pourquoi ça marche pas. Tu sais, si tes leaders négatifs sont tous des directeurs, par contre, c'est comme ding, 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 un problème.
Puis, au même titre que si tu te rends compte que t'as des directeurs qui sont ni leaders positifs ni leaders négatifs.
Si on pas de leadership, tu sais, on dit souvent que le leadership, c'est quelque chose qui se développe, mais c'est aussi vraiment un talent naturel. Si des gens en position de gestion n'ont pas de leadership, ça peut être quelque chose... Tu sais, il faut le savoir, en fait, pour avoir les adaptations nécessaires pour que ça fonctionne bien.
Exactement. Puis, j'ajouterais simplement que pourquoi on fait le génogramme, justement, la structure informelle, c'est de se demander pourquoi, des fois, il y a des décisions qui viennent d'un endroit qu'on n'aurait jamais soupçonné. Mm-hmm. Mais on se rend compte que la personne, c'est le beau-frère de la sœur du directeur des opérations, genre. C'est un affaire dans la même... Il y a 1 million d'histoires. Puis chez Kobum, on fait le génogramme maintenant de façon religieuse parce que j'ai déjà animé une planification stratégique où que j'avais dans la salle monsieur, son ex-conjointe, puis sa nouvelle conjointe et son fils.
Oh mon Dieu! Faut le savoir.
Et ça, c'est important de le savoir dans les interventions. Puis moi, je trouve ça encore plus important que on dit qu'on veut pas faire une structure basée sur l'humain, mais on peut pas l'ignorer.
Mm-hmm. Oui, ça va venir expliquer aussi les rapports de force, puis qui coopère bien ensemble, qui coopère pas bien ensemble. Fait que c'est vraiment important de la comprendre. C'est comme un peu un intrant à la structure formelle.
Exactement.
Puis ça permet surtout de découvrir les fameux jeux politiques.
Oui, et qui font toute la différence, parce que même mm-hmm. si on fait une belle structure, c'est ça qui est intéressant. C'est de faire une structure formelle, de partir de ce qu'on a, puis après de la refaire, puis de regarder avec ce qu'on vient de faire, est-ce que ça va fonctionner, ce qu'on vient de créer? Puis là, des fois, c'est pas de changer notre structure, mais peut-être qu'il y a des gens qu'on doit changer de chaise ou des gens qu'on doit impliquer à différentes étapes dans nos processus, etc. Et là, c'est là que le domaine de la participation entre en jeu.
Oui, la semaine prochaine. Mais vous pouvez aussi vraiment vous référer à l'épisode sur le pouvoir parce que
oui.
Structure et pouvoir, c'est très, très entremêlé, comme on disait au début. Finalement, il y a la structure de création de valeur. Ça, c'est vraiment plus par rapport au travail et vraiment les compétences des personnes.
La structure de création de valeur, pourquoi en fait on parle de ça maintenant, c'est qu'on se rend compte qu'on ne peut pas faire une structure sans regarder les opérations? Ben, en fait, on peut, parce que traditionnellement, les gens le font pas. Okay? Donc, on s'entend, les gens peuvent le faire. Mais cette lecture-là, je ne me souviens plus où est-ce qu'on a pris ça, mais... Chez Kobum, c'est naturel. Notre historique vient de faire des processus. T'sais, notre historique, la base du cabinet est basée sur les opérations. Mm-hmm. Donc, faire la chaîne de valeur du client, de son expression de son besoin jusqu'à temps que le besoin soit comblé, payé, etc., c'est naturel chez nous de faire cette cartographie-là de chaîne de valeur, de comprendre la structure de création de valeur, puis de comprendre qu'il y a des fonctions qui sont réellement en soutien puis d'autres qui sont réellement... en création de valeur. Donc, c'est là faire la distinction. Puis, notre organigramme devrait jamais nuire à notre structure de création de valeur. Puis, ce qu'on se rend compte, c'est que quand on regarde dans certains... On regarde des organigrammes, puis on regarde la structure, puis on est comme... Que c'est ça? Pourquoi il y a autant de noms?
Mais pour l'imaginer facilement, oui. Pour que les gens puissent l'imaginer dans leur tête, quand on parle de structure hiérarchique, on l'imagine beaucoup verticale. Mais oui. La structure de création de valeur est plutôt horizontale, tu sais, comme c'est, on peut l'imaginer un peu sur une ligne du temps.
Oui, très linéaire. Puis, tu sais, moi, j'aime pas beaucoup utiliser le diagramme de Porter de la chaîne de valeur parce que ça va beaucoup plus loin que ça, mais on pourrait utiliser, tu sais, comme si vous le connaissez, ça peut être une bonne référence. La chaîne de valeur, c'est beaucoup plus que ça parce que derrière tout ça, il y a derrière les juste, c'est pas juste ingénierie, opération, logistique puis administration, là, c'est beaucoup plus complexe.
Ouais.
La chaîne de valeur nous permet juste de voir, tu sais, admettons là, que dans ma chaîne de valeur, il y a 10 intervenants qui ils ont 10 boss différents. Comment je veux que le client soit servi de façon rapidement?
C'est ça, comment ça sert au produit?
Puis au client, ça sert à personne, tout ça. Donc, ouais. C'est là que ma structure, elle fait pas de sens. On essaye de... Tu sais, quand on dit dans les entreprises responsabilisées, puis on va en venir après, mais par où on commence? Bien, on commence par responsabiliser la chaîne de valeur. Après, le reste peut à la limite rester hiérarchique, mais tant et aussi longtemps que la chaîne de valeur doit être le plus aplanie possible. Pourquoi? Parce que c'est comme un corridor. Puis là, ça se peut que j'aie 2-3 chaînes de valeur. Si vous en avez 10, clairement, vous n'avez pas fait vos chaînes de valeur comme du monde, parce que ça veut, à moins que vous ayez 10 secteurs d'activité avec 10 produits complètement différents. Honnêtement, 2-3 chaînes de valeur, c'est pas mal ça qu'on a. Puis après, quand on revoit notre structure, on se demande, est-ce que ma structure nuit à ma structure de création de valeur? Est-ce que ma structure tient en compte ma structure informelle? Puis est-ce qu'elle tient en compte ma structure actuelle formelle?
Oui. Fait que le but, c'est vraiment, tu sais, quand on parle de structure hiérarchique dépassée, bien justement, le but, c'est que la structure hiérarchique soit pas un frein à la chaîne de création de valeur. Faut qu'elle soit un soutien.
C'est ça.
Et non, tu sais, faut pas que ça y mette des bâtons dans les roues, parce que quand c'est très, très hiérarchique, ça peut facilement comme devenir quelque chose qui va bloquer. Ça va nuire au client en fin de compte. Puis tu sais, le but aussi, c'est que quand l'entreprise est en croissance, souvent on va avoir tendance à rajouter des paliers de niveau hiérarchique, puis là, ça finit plus de sous-directeur, VP, VP exécutif, blablabla. C'est essayer de garder de l'agilité, puis de pas s'embourber dans une espèce de structure à 10 niveaux, tu sais, d'essayer de garder ça le plus simple possible.
Plus on a d'employés, plus il va y avoir des niveaux. Ça, c'est normal. Il y a tout le temps le ratio que je trouve intéressant de taille d'équipe. Que je pense justement, tu disais. C'est-tu toi qui disais ça dans le dernier épisode? Les deux. Ah non! Je vais voler l'idée à Catherine. Je parle pas de moi à la troisième personne, je parle de Catherine Bocage, notre collègue, qui donnait l'exemple, je me souviens plus c'est quelle grande entreprise, mais qui disait qu'une taille d'équipe idéale, c'est une pizza extra large.
Ok, explique-moi donc ça. Je suis pas sûre que je comprends.
Puis que si t'as besoin de commander deux pizzas extra large, c'est que ton équipe est trop grosse.
Ok, littéralement, là. Une oui. pizza extra large à manger.
Oui,
je comprends.
C'est ça.
Je pensais que c'était une métaphore.
Non, c'était vraiment, tu sais, comme exemple que tout le monde commande, là, puis tout le monde prend une pointe, là. Bon, ben, c'est okay. une pizza X-large. C'est vraiment la taille idéale, tu sais, de 3 à 12 personnes, un équilibre de 5 à 6, que ça se peut qu'il y ait des niveaux hiérarchiques au travers tout ça. Mais tout ça, est-ce que ces gens-là peuvent se parler sans mettre un boss au-dessus qui leur demande de se parler? Tu sais, c'est là que le. C'est là que la structure devient très lourde. T'sais, c'est pas rare qu'on ait vu un VP qui a deux directeurs sous lui, puis qu'il y a, tu sais, comme, puis que finalement, au total, il y a 15 personnes avec 3 niveaux hiérarchiques. Mm-hmm. Pourquoi?
Il y a même des fois les mêmes mots qui sont utilisés pour. Tu sais, mettons, le mot directeur, c'est populaire, là, puis là, des fois, ça serait même pas finalement vraiment au même niveau hiérarchique.
Oh, moi, ça m'énerve. Un directeur qui a pas d'employé, je trouve ça toujours
c'est
absurde.
C'est pas un directeur.
Non, c'est un responsable.
J'ai déjà été ça dans un emploi précédent. Je le confirme.
Tu sais, t'es directeur, pourquoi t'es censé te diriger? Mais si tu t'auto-diriges, au final, c'est pas
t'es
de la
pas
direction.
Directeur.
Non. Puis c'est d'ailleurs, tu sais, si tu diriges une personne, t'es pas plus directeur.
Mm-hmm.
Donc moi, je déteste les noms qui veulent pas dire de sens.
Donc, en gros, c'est ça qui fait le tour des 3 différents types de structures, que ce soit hiérarchique, si on veut, que ce soit formel, informel et de création de valeur. Segment 2, la structure en entreprise responsabilisée. On peut pas faire un épisode sur la structure sans parler de la structure en entreprise responsabilisée. Donc, je vais te poser la même question que je t'avais posée avec le pouvoir. Qu'est-ce qui arrive à la structure en entreprise responsabilisée?
Elle s'aplanit, OK? Donc, ça veut dire que le ratio de boss par employé diminue énormément, donc déjà en partant. Puis, le concept de patron change du tout au tout. Donc, on n'a plus le concept de « je relève de », je me demande plus « j'appartiens à quelle équipe ». Donc, on est vraiment dans un rôle d'appartenance plutôt qu'un dans un rôle de... je sais pas comment dire, là, en ce moment, je suis en train de faire des mimes, mais de supériorité. De supériorité, infériorité.
Oui, de subordination.
Subordination est exactement le bon mot.
Dictionnaire intégré.
Oui.
You're welcome.
Merci, Laurie. Puis là, la seule affaire que je bannis totalement, c'est de prendre ta structure puis juste le regarder d'en haut. Donc, c'est-à-dire de me faire des cercles sur une feuille, puis de garder la même structure pour dire
ouais.
comme « Oh, j'ai une structure organique, c'est l'air, mais qu'au final, le pouvoir... » Parce que si t'as pas changé le pouvoir, puis t'as juste fait des cercles, on s'en...
Ça va être pareil comme avant.
Ben oui. Que la structure, c'est pas juste faire des dessins. C'est vraiment que c'est un
Parce
rôle...
Parce que c'est ça. En fait, on partirait d'une structure qui est verticale à une structure qui est cellulaire. Ça veut dire que les gens sont communément responsables de certaines fonctions de l'entreprise, puis ça relève plus d'une seule personne.
C'est exactement ça. Puis là, il y a des gardiens qui, le rôle des gardiens ou des capitaines est plus de, justement, veiller, d'être en bienveillance par rapport aux objectifs de l'équipe. Donc, tu sais, si on regarde par rapport aux principaux rôles dans une entreprise responsabilisée, là, on sort mon jeu préféré, le soccer, que j'ai jamais joué d'ailleurs, mais qui explique très bien ce que je veux faire. Donc, une équipe... C'est une équipe de soccer. Il y a un capitaine qui est nommé par ses pairs, idéalement. C'est pas obligé, mais tu sais, ça peut être une bonne pratique.
Mm-hmm.
Il y a un capitaine qui collabore avec le coach, mais le coach peut aussi intervenir directement avec les joueurs. Mais le coach, il va pas jouer sur le jeu, là.
Non.
Il est pas là, là. Il est là comme en amont, en aval, mais pas pendant. Que ça, fait, ça veut dire comme quoi que j'y fais pas d'interférence dans tout le processus, il est là vraiment comme coach. Et ça le dit. Puis finalement, il y a l'arbitre. qui est un rôle qu'on néglige énormément quand on met des entreprises libérées en place, qui est, c'est qui la personne qui va taper sur les doigts puis qui va sortir le carton jaune puis le carton rouge? Mm-hmm. Parce que la discipline, c'est pas parce qu'on a une entreprise responsabilisée qu'elle disparaît, elle se diminue énormément, mais il faut savoir que c'est pas tout le monde qui a le courage de dire à leurs collègues qu'ils font pas leur job. Puis là, c'est là qu'il faut qu'il y ait un arbitre pour inciter les gens à se dire les vraies affaires puis à intervenir dans le cas où c'est vraiment... tu sais, exemple, là, ça peut être des cas de vol, tu sais, que là, c'est vraiment...
Oui, il y a des... Oui, oui. Les humains restent des humains, là.
C'est ça. Là, on met pas en place un arbitre par équipe. Tu sais, un arbitre peut s'occuper de plusieurs équipes. Tu sais, regardez une ligue, là, de soccer, là, dites-vous comment ça fonctionne. Il est pas obligé d'avoir un seul coach par équipe. Un coach peut coacher plusieurs équipes. Un coach n'est pas obligé d'être là à temps plein. Mm-hmm. Il peut être là de façon ponctuelle. Donc, il peut appartenir à une équipe puis coacher. Donc, c'est un peu la structure ressemble à ça. Donc, il y a des gens qui sont vraiment dans des équipes, puis il y a des tâches qui sont pas assez grandes pour faire des équipes. Donc là, ça devient des rôles super précis que la personne n'appartient pas à une équipe, mais appartient... Elle a un rôle, c'est elle qui a le chapeau, puis elle va collaborer avec différentes équipes, mais elle appartient pas nécessairement à une équipe, elle appartient à l'équipe de l'entreprise.
Donc, c'est fou de penser qu'il y a une entreprise responsabilisée ou entreprise libérée, qui est comme plus connue, et l'holacratie et tout ça, c'est pas une abolition de la structure, c'est une modification.
Oui, parce que l'entreprise libérée, l'entreprise responsabilisée, ce sont des structures organisationnelles avant tout.
Puis ils deviennent encore plus importantes, c'est ça. Faut que ça soit structuré pour que ça marche, parce que justement, il y a personne pour te taper sur les doigts pour te dire t'as pas fait ta job.
Puis la différence avec une structure hiérarchique, c'est qu'elle est organique, donc... Il y a des équipes qui naissent, d'autres qui meurent, d'autres qui fusionnent. Là, c'est dans nos cours de biologie.
Oui.
L'osmose.
Mitose. mais c'est ça. Fait qu'en gros, le rôle du gestionnaire, comme il était défini avant, il est juste appelé à évoluer, mais il n'est pas éliminé. Puis loin de là, au contraire, justement, les gens qui sont des leaders positifs vont pouvoir venir prendre plus de place. Ceux qui aiment mieux être dans l'opérationnel vont pouvoir aller se développer là-dedans. C'est plus que les rôles évoluent pour que chacun ait la plus grande valeur possible.
Ce qui est intéressant, puis je veux souligner ce point-là, ce n'est pas parce qu'on est une petite entreprise ou une grande entreprise que c'est plus facile ou moins facile. Mm-hmm. Ça n'a pas rapport avec la taille, ça rapporte beaucoup avec la maturité des gens, et la maturité n'est pas avec l'âge. Donc ça, mm-hmm. c'est vraiment un élément important. Puis pourquoi on fait une structure de cette façon-là? C'est une structure qui permet aux gens d'évoluer beaucoup plus que dans une structure hiérarchique qui est limitée par les paliers. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on tente d'aller vers ça. Puis, c'est une structure qui tient en compte la structure formelle, informelle et créatrice de valeur par la bande.
Et d'ailleurs, pour faire boucler la boucle, vous pouvez quand même aller écouter l'épisode 10 sur le développement qui parle justement que c'est vraiment possible de se développer de manière horizontale et pas juste verticale de façon hiérarchique. Ça fait un peu le lien avec ce qu'on vient de parler. On a dans le four, en préparation, une nouvelle saison YouTube. En fait, si vous êtes intéressant d'en apprendre plus sur l'entreprise responsabilisée, on avait la saison 1 qui expliquait justement les fondements de l'entreprise responsabilisée. Mais là, on a commencé à préparer une saison de 6 épisodes. Ça va être assez court sur les mythes sur l'entreprise responsabilisée. Puis ils sont tous un peu en lien avec la structure. Fait que je voulais juste comme renommer les 6 mythes sans rien vous dire d'autre. Puis ça fera un petit tease pour quand la saison YouTube sortira prochainement vers cet automne-là. Donc, le mythe numéro 1 qu'on avait identifié, il est plus facile de gérer une entreprise avec une structure traditionnelle. Mythe numéro 2, le bon entrepreneur gère tout dans son entreprise. D'ailleurs, c'est toi, Catherine, qui fais cet épisode-là. Mythe numéro 3, en l'absence d'un gestionnaire, il n'y a plus de personnes ressources. Là, si vous nous avez bien écouté, vous allez déjà voir que c'est pas tout vrai. En fait, il n'y a rien de ça qui est vrai. Mythe numéro 4, sans gestionnaire, c'est le free-for-all. Mythe numéro 5, l'autonomie favorise la paresse. Et mythe numéro 6, qui s'occupera des tâches mal aimées? Donc voilà, c'était le petit avant-goût.
Puis d'ailleurs, en plus de la chaîne YouTube qui sortira cet automne, la saison 2 du podcast Management 101 sera la lecture du cookbook et qui porte vraiment
oui,
essentiellement...
Oui, vraiment excitant comme projet.
Oui.
Yes.
Donc, ça va être un épisode... En fait, la prochaine saison va être lu par Laurie. Donc, oui. Laurie va être là, puis on fera peut-être des petites interventions à la fin de chaque épisode ensemble. Là. Mais ça va venir compléter vraiment plus l'entreprise responsabilisée. En fait, tu sais, justement, le Kobo qu'on vous en a parlé beaucoup pendant la saison, mais n'hésitez pas à lire. Puis sinon, si vous n'êtes pas du genre à lire, bien, sachez que vous allez l'avoir disponible en audio tout l'automne.
Oui, gratuitement à part de ça, parce que ça va être juste séparé en épisodes. Puis aussi, j'ai eu un flash, là, je me suis rappelé que le Kobo qui était disponible non seulement sur notre site, mais aussi sur les sites de Renaud-Bray et Archambault. Donc, il y a plein de façons de vous procurer.
Oh yeah!
En conclusion, je voulais aborder un sujet dont on n'a pas vraiment parlé dans le pouvoir, mais dont on aurait pu parler aussi, les rôles et responsabilités. Parce qu'au-delà de la structure, une fois qu'on a décidé qu'on soit hiérarchique, qu'on soit responsabilisé, peu importe, après ça, est-ce que les rôles et responsabilités associés à chaque poste sont clairs?
C'est tellement important. Puis là, moi, j'ai une philosophie là, par rapport au rôle et responsabilité. Le rôle, c'est ta mission, okay? C'est ta raison d'être, c'est pourquoi ton rôle, ton poste existe dans l'entreprise. Si ça n'est pas là, ça veut dire que tu n'existerais pas. Mm-hmm. Donc, ça peut être, selon moi, là, moi, j'essaie toujours d'avoir une à trois missions au maximum. Si tu as plus que ça comme mission, tu es comme le roi soleil. Ça,
on fait que ça devrait être plus qu'une personne, selon toi, rendu là.
Oui, vraiment. Okay. Donc, déjà, c'est beaucoup de travail à livrer une mission. Donc, une à trois missions. Après, tes responsabilités, s'il vous plaît. Puis là, je lui donne un petit clin d'œil à mon ami Fred. Ça ne doit pas commencer par responsable de. OK? Donc, une responsabilité, ça commence par un verbe d'action. Pourquoi? Admettons, on dit responsable de la qualité. C'est moi qui est responsable de la qualité de tout le monde? Ou je suis responsable, ou je contrôle la qualité, ou je fais la qualité, ou je vérifie laquelle. Qu'est-ce que je fais par rapport à. C'est quoi mon champ d'action? Donc, ma responsabilité, c'est quoi le verbe d'action? C'est quoi mon champ d'action? Donc, ça peut pas être qualité, par exemple, ou ça peut pas être vente. Est-ce que moi, je suis responsable de faire des ventes ou de m'assurer de la stratégie de la vente? Qu'est-ce que je fais?
Donc, ça doit être plus précis que dire responsable de.
Ah oui. Non. Il faut vraiment un verbe d'action. Puis. La grosse différence pour chaque poste, bon ben on a vraiment notre mission, nos responsabilités. Dans une entreprise responsabilisée, étant donné qu'on ne fonctionne pas par poste, on fonctionne par cellule. C'est les cellules qui sont responsables et c'est au sein de la cellule même que les membres d'une équipe vont se diviser les responsabilités. Donc, il y a des responsabilités qui peuvent être communes, des responsabilités qui peuvent être divisées, des responsabilités qui ne sont pas nécessairement communes, mais que tout le monde, tu sais, exemple, dans un projet, tout le monde est responsable de faire en sorte de livrer des projets avec une satisfaction client de minimum 9 sur 10, par exemple. Mm-hmm. C'est pas communément responsable, mais chacun idéalement sont responsables.
En gros, en hiérarchie, c'est très important, mais c'est des fois plus facile, tu sais, comme si c'est pas clarifié. Des fois, tu t'en rendras même pas compte parce que des fois, ton boss te dit quoi faire, tu le fais, c'est tout. Mais en entreprise responsabilisée, la description doit être ultra claire puis les carrés de sable doivent être ultra précis parce que c'est comme ça que l'entreprise fonctionne. Si ça, c'est mal défini, ça va juste pas rouler.
Exactement.
Donc voilà, c'est ce qui conclut aujourd'hui l'épisode 16 de Management 101 sur la structure. On se retrouve la semaine prochaine pour l'avant-dernier épisode sur la participation, avant le dernier épisode sur la culture, auquel j'ai très hâte.
Ça va clôturer notre saison 1.
Oui, déjà.
Avant notre saison 2, qui va commencer juste à temps pour la rentrée.
Oui. En attendant, vous pouvez toujours nous écrire ou nous retrouver sur les réseaux sociaux au kobum.co, sur Facebook, LinkedIn et Instagram, ou sinon nous écrire à notre adresse courriel générale au info@kobum.co. À la semaine prochaine!
À la semaine prochaine!